EMCI TV vous présente À table avec Annabelle, votre podcast francophone chrétien 100% féminin. Prenez place à table avec Annabelle pour des discussions authentiques, fun et profondes, empreintes de la parole de Dieu.
Il faut vraiment arriver sur leur centre d'intérêt, commencer à parler de ce qui les intéresse, leur parler, etc. Et trouver le moment propice, en fait. Voilà, ils ont aussi le droit, ils sont en train de se forger une personnalité, une identité. Donc, c'est important aussi de leur laisser quelque part un peu leur jardin secret, j'ai envie de dire. Mais en même temps, c'est important, en fait, de pouvoir être là, de pouvoir apporter leur soutien et de les conseiller.
Bonjour et bienvenue à toutes. Merci de nous suivre encore aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'À table avec Annabelle. Et aujourd'hui, on parle des adolescents. Comment développer ou maintenir une relation forte avec nos adolescents? Alors, quelquefois, on leur fait un petit peu la vie dure parce qu'on va dire, ah, les ados, la crise d'adolescence, etc. Et partir avec beaucoup de préjugés en tant que parents, puis aussi en tant qu'adultes, tout simplement. Et puis, on va voir aujourd'hui, c'est possible de développer une bonne relations et des relations fortes et saines avec les adolescents, surtout en tant que parents. Alors, on veut vous encourager si vous avez l'impression que votre enfant, en ce moment, il est un petit peu en train de vous échapper, que ça devient un inconnu qui devient grand en plus dans votre maison, mais c'est plus votre petit bébé, votre petit garçon, votre petite fille, et que cet enfant est en train de muter, et bien de pouvoir avoir de l'espoir, parce que c'est possible, oui, d'avoir une bonne relation avec votre adolescente ou votre adolescent. Et on est aujourd'hui avec, je suis avec que des mamans d'ailleurs, des mamans qui ont déjà eu des adolescents, des mamans qui vont avoir des adolescents et une maman qui a des adolescents. Donc bonjour Sita, bienvenue sur le plateau d'À table avec Annabelle.
Bonjour Sita, content de te voir.
Moi aussi, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Ouais. C'est vraiment un plaisir partagé. Et je crois qu'on va passer un excellent moment.
Oui. Donc, Sita, avant de continuer, je te présente rapidement. Tu es maman, comme on l'a dit. Oui. Tu as quatre enfants. 10, ça commence
10,
à 10, ça.
12, 14 et 16.
Ouais. Après, une fois que le 10 est donné, c'est bon, j'ai retenu, c'était
2 à 2.
Ouais. Donc là, toi, tu es en plein dedans.
Je suis en plein dedans.
En plein dedans, donc c'est un sujet d'actualité.
Très actuel.
Et puis,
pour moi.
Tu es aussi pasteur avec ton mari, pasteur Freddy. Vous êtes pasteur à ICC Martinique. Et Martinique, hein, ça fait rêver beaucoup de gens.
Oui, surtout en janvier au Québec, tu vois.
C'est ça.
Et donc, tous les deux, vous êtes là-bas depuis maintenant 12 ans, c'est ça. 12 ans, et puis avant, vous étiez donc en région parisienne. Alors écoute, on est très contente de te recevoir, de parler de ce sujet. Comme je disais, quelquefois, les adolescents, il y a beaucoup de préjugés, en fait, sur les adolescents, puis ça peut devenir un petit peu une blague, mais quelquefois, la blague devient une réalité où nous-mêmes en tant qu'adultes, on se dit, même chrétien, en tant que parent chrétien, l'adolescence, ça va être une vraie catastrophe, ça va être un vrai mauvais moment. Donc on va voir c'est quoi déjà en fait l'adolescence.
Oui, alors l'adolescence, c'est une période de transition de l'âge de l'enfance à l'âge de l'adulte. Et c'est vrai qu'en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte que c'est un concept en fait qui est tout nouveau, et notamment en Occident, parce que en fait l'adolescence ou même la crise d'adolescence, on n'en parle pas partout. Mmh. Il y a des endroits, en réalité, où on ne parle pas de crise d'adolescence, d'adolescence, et où les choses se passent tout à fait différemment.
Est-ce qu'on peut déménager dans ces endroits-là?
Alors, on pourrait déménager, mais je pense que le but pour nous, si le Seigneur nous appelle à être là où nous sommes, qu'on parle de crise d'adolescence et d'adolescence, Alors, l'adolescence, c'est vrai que c'est une période transitoire. Et elle marque de toute manière que l'on soit dans un pays où on parle de crise d'adolescence ou pas, des changements. Mmh. Des changements physiques, physiologiques, des changements. Et c'est un changement pour aussi autant le parent que l'enfant en réalité. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, Annabelle, on a connu l'enfant qui est avec nous tout le temps, qui dit oui à tout, qui nous voit comme le héros. Et puis tout d'un coup, on voit cet enfant qui est dans une phase où il est en train de chercher son identité. Il est en train de vouloir s'affirmer. Il est en train de vouloir repousser les limites qu'on lui donne. Donc en réalité, l'adolescence est une phase transitoire dans laquelle on peut justement se servir de ces changements, de ces mutations dont tu parlais tout à l'heure, pour pouvoir façonner l'adulte qui va devenir. Mm-hmm. Et donc, on ne doit pas le prendre avec frayeur, parce que la Bible dit que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc, je pense qu'il vaut mieux être préparé. Et donc, parents, si vous êtes là, suivez cette émission, parce que je crois que vous allez avoir les clés pour pouvoir justement accompagner vos adolescents. Alors, quand je dis les adolescents, c'est pas seulement les adolescents qu'on a enfantés, mais ça peut être aussi les personnes que l'on va avoir sur notre chemin à passer justement ce cap.
Les grands-parents aussi, hein. Des fois, tu veux aider.
Oui, c'est ça. Ouais. On veut aider aussi.
Et moi, j'ai eu un pasteur qui disait, il avait trois filles, et il disait, moi, j'ai pas mis ma foi dans une crise d'adolescence. Mmh. Et en fait, je me suis dit, ah, c'est intéressant. Et Eden était toute petite à l'époque. Je me suis dit, moi non plus, je mettrais pas ma foi dans la crise d'adolescence, parce que c'est quelque chose avec lequel t'évolues. Et puis, tu sais, moi, j'ai grandi dans un milieu, on dit, ah, c'est la crise d'adolescence, ah, les adolescents, ils sont ci, ils sont ça. Et même toi, en tant qu'ado, tu as l'impression que tu dois faire une crise, que tu n'as pas le choix de faire une crise. Donc déjà, tu te sens, tu te cherches un peu. Mais en plus, on te dit, tu dois être désagréable, ça fait partie de cette transition, de cette période. Donc, écoute, tu lâches le fauve.
Et manifester, c'est ce que tu me demandes de manifester.
Exactement, puisque tout le monde s'attend à ça. Et en fait, le fait qu'il ait parlé de ça, moi, quand même, ça m'a donné une autre perspective. Je me suis dit, je suis pas obligée de redouter l'adolescence et de comprendre, oui, c'est un moment quand même de transition, c'est un moment où il y a beaucoup de choses qui se passent et du coup c'est sûr que c'est pas un long fleuve tranquille et qu'il va y avoir des manifestations de l'adolescence, mais c'est pas forcément une crise. Et je crois que quelquefois en tant que parent on veut tellement se préparer qu'on va se préparer à une crise, à un tsunami, mais il n'y a pas forcément de tsunami. Bon, il y a des enfants pour qui c'est plus difficile l'adolescence, mais il y a des enfants pour qui c'est pas une crise d'adolescence. Une période qui est de transition. Donc oui, ça demande des changements, ça demande de l'ajustement, ça nous en demande aussi à nous en tant que parents, mais de ne pas se mettre dans la foi que forcément ça va être terrible, ça va être horrible et mon enfant va devenir un monstre et puis on va perdre la communication et puis parce qu'on ne va jamais essayer de le regagner en fait pendant cette période-là. Et c'est un peu le danger. Et l'autre danger à l'autre extrême, c'est non, il ne se passera rien parce que l'adolescence, une crise d'adolescence, c'est diabolique, mais c'est de se dire y a quand même des changements qui ont lieu, puis des changements hyper forts en fait, qui sont physiologiques, émotionnels, etc. Et puis les enfants, adolescents, ont besoin à ce moment-là de retrouver des nouveaux repères. Donc c'est sûr que ça fait des vagues quand même. Donc c'est de pas être pris au dépourvu, mais de pas non plus déjà mettre notre enfant dans une boîte comme quoi il va devenir un monstre pendant X années et peut-être qu'on le retrouvera après, mais peut-être pas. Ça dépendra. Là, Stéphanie, je sais pas, toi, tes enfants sont plus grands aujourd'hui, oui, ils sont sortis de l'adolescence.
Oui.
Est-ce que toi, quand tu étais
adolescente,
on en parlait beaucoup?
Oui, on parlait beaucoup vraiment. Là, ça va être une crise d'adolescence. Et même quand je faisais de la relation d'aide à l'église, j'aidais des femmes qui leurs enfants passaient l'adolescence. Et moi, je me disais, j'ai pas de. Et finalement, chez moi, l'adolescence s'est super bien passée. C'était une période de transition. C'était plus des fois le passage jeune adulte. Tu vois, c'est pour séparer un peu les choses. Mais l'adolescence, merci Seigneur, ça s'est bien passé. Et je trouvais ça le fun. Tu sais, il y a des changements, mais qui sont aussi positifs.
Ben oui,
c'est pas juste négatif. Donc, on a plutôt focusé sur ce qui était positif et c'était agréable.
Non, c'est sûr qu'on peut appréhender cette période. Et puis des fois, même de dire crise d'ado, c'est comme si on rejette un peu la faute sur les ados, mais de dire ils sont en crise d'ado de toute façon. Tu vois, c'est un peu la chose facile, comme si on se retire aussi peut-être un petit peu de ce qui est en train de se passer. Mais finalement, on pense pas qu'on peut s'outiller aussi. On peut faire en sorte de dire comment on peut vivre cette phase pour que ça se passe au mieux, pour que on puisse garder cette relation-là, puis que finalement les aider, comme tu l'as dit, à devenir les adultes qui sont supposés, quoi. Et je pense que des fois, on a aussi cette notion que ce qui nous fait drôle, c'est comme vous l'avez dit aussi, c'est que nos enfants sont plus des petits enfants. Donc c'est ça qui fait peut-être drôle pour un parent. Peut-être que finalement, c'est pas une crise d'ado, mais c'est nous qui sommes pas prêts. Non, mais c'est vrai, on n'est pas prêts de voir ce qui se passe et tout, ça va trop vite. Donc on a une notion de nos enfants, mais se dire mais c'est quelque chose qui est normal en fait. C'est juste que nous, on n'est peut-être pas prêts à ça. Donc
mais peut-être j'ajouterais, c'est sûr qu'à mon époque, ça fait pas si longtemps, mais quand même, la notion d'identité. Aujourd'hui, tout ce qui est notion d'identité, c'est un sujet qui est très d'actualité. Je crois que ça peut mettre des pressions sur l'adolescence et tous les réseaux sociaux. Et j'y reviens beaucoup, mais les écrans, quand mes enfants étaient ados, il y avait c'est sûr des trucs, mais il y avait moins accès au téléphone cellulaire, aux réseaux sociaux. Donc, moi, je pense qu'en ce moment, sans parler de crise, je pense que pour les parents, il faut être ouvert. C'est une une problématique qui s'ajoute dans la possibilité de crise d'adolescence.
Exactement.
Ouais.
Après, c'est vrai que au niveau de l'adolescence, pourquoi on parlait d'accompagnement aussi dans cette phase-là ? Et j'aime beaucoup le point que tu abordes justement quand tu parles de la responsabilité. Parce qu'en réalité, on a une responsabilité vis-à-vis de ces adolescents. Le Seigneur nous les a confiés et on doit en fait en faire des disciples, donc des citoyens accomplis. Et c'est une responsabilité qu'il y a. Et pourquoi c'est important d'avoir une relation saine et de bâtir une relation saine ? C'est parce que la Bible nous demande « enseigne l'enfant sur la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas ». Mais comment enseigner quelqu'un avec qui on n'a pas une relation ? Avec qui on n'a pas pris le temps de bâtir une relation ? Et bâtir une relation saine, ça prend du temps. Et Stéphanie, j'abonderais vraiment dans ton sens, dans le sens où lorsque tu parles de « ça s'est bien passé », c'est-à-dire que c'était une transition. Mais il y a certainement des choses que tu as mis en place en amont.
Ouais.
Une relation, on ne va pas la bâtir à partir du moment où l'enfant il commence à avoir ses premiers poils, etc. Ouais. Non, c'est en amont un travail qu'on fait. Et donc, ça devient transitoire. Donc, là, c'est important d'avoir cette relation dès le début.
Oui, puis la notion de confiance, je pense que de passer à travers cette saison-là, justement, en ayant confiance que ce qu'on a semé dans leur vie, ça va fleurir éventuellement. Ça. Parce que dans l'adolescence, c'est que là, ils commencent à faire des choix où tu as moins le contrôle.
Ah oui.
Donc là, tu peux venir hyper restrictif. Et c'est bien de veiller. Tu sais, la femme sage, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Mais c'était une fine ligne entre je te fais confiance et ce que tu vas respecter un peu ce qu'on a enseigné, les valeurs bibliques, tu vois. Donc, il y a une espèce d'équilibre à aller chercher entre, écoute, c'est peut-être pas tout à fait comme ça que j'aurais voulu, mais ça revient. Tu vois, c'est quand on met beaucoup de pression ou c'est restrictif, des fois, c'est ce qui fait exploser, des fois, l'adolescent, de dépasser la limite. Mais moi, je trouve que la notion de communication, tu le sauras mieux que moi, mais communication et confiance, il y a deux choses. Garder la communication, toujours, toujours. Parce que des fois, quand ils ont peur de nous dire les choses, je les ai déjà dit dans une autre émission, mais des fois, ils nous disent pas tout. On sait pas tout ce que vivent nos enfants. Donc, quand tu dis la communication, c'est ça, qu'ils se sentent confortable, à l'aise de nous dire ben, des choses qu'ils pensent vraiment. Comme ça, ils les mettent à la lumière et là, on peut en discuter. Mais quand ils cachent, parce qu'on peur, on dit ben, la Bible a dit ça, ou on est ci, on est ça, mais là, ils cachent et ils font les choses en cachette. Et ça, c'est ça devient compliqué.
Ça, c'est ça qui devient compliqué.
Voilà.
C'est ça qui devient compliqué. Mais après, je pense que c'est à nous, parents, de mettre un cadre propice justement aux échanges,
à
la communication. Une communication qui va être ouverte parce qu'il y a des enfants, tu leur poses des questions fermées, c'est ouverte, c'est fermé, c'est oui, non, c'est oui, ça. Non, oui, non. T'as passé une bonne journée, oui. Surtout les garçons, oui. C'est très rapide.
T'as raison.
Donc, après, c'est à nous de vraiment créer ce cadre, justement, où on peut parler de tout, où il n'y a pas de tabou.
Oui.
Et où ils voient aussi qu'ils ont des réponses. Parce que sinon, bah, ils vont aller chercher des réponses là où ils pourront en trouver.
Ouais.
Et donc, les réseaux, les amis, et là, forcément, on n'aura plus le contrôle sur ce qu'ils pensent.
Vas-y. Et du coup, comment on peut faire pour créer ce cadre de communication ? Parce que quelquefois, on peut être assez maladroit. On va dire, je veux communiquer avec toi.
Communique aujourd'hui.
Parle-moi, ouvre-moi ton cœur. Tu passes par la puberté. Comment vis-tu ces changements ?
C'est sûr que...
J'ai pas trop envie de parler avec toi de ce sujet, maman. Au revoir. Je suis fatiguée et je ferme la porte de ma chambre. Je pense que... Et là, ce que tu disais tout à l'heure, Stéphanie, ça demande pour nous, parents, une adaptation et une ouverture d'esprit. Oui. On doit être ouvert d'esprit et on doit se mettre, en fait, dans les chaussures de nos ados. Alors, il faut revenir parfois quelques années en arrière et, en fait, parler leur langage et s'adapter. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va se devenir un jeune ado. Wesh, comment tu vas?
Ça, ils nous détectent tout de suite. Pas qu'on essaye d'avoir l'air cool, puis on ne l'est pas.
ça ne fonctionne pas. Mais je pense qu'il faut vraiment arriver sur leur centre d'intérêt. Commencer à parler de ce qui les intéresse. Leur parler, etc. Et trouver le moment propice, en fait. Voilà, ils ont aussi le droit... Ils sont en train de se forger une personnalité, une identité. Donc, c'est important aussi de leur laisser quelque part un peu leur jardin secret, j'ai envie de dire. Mais en même temps, c'est important en fait, de pouvoir être là, de pouvoir apporter le soutien et de les conseiller. Mais très souvent, nous, les parents, on veut imposer notre manière de voir les choses. L'enfant vient avec un sujet ou quelque chose, on veut imposer notre manière de faire. Et donc, on n'est plus dans l'échange, mais on est... Parce qu'une communication, c'est une communication qui va dans les deux sens. C'est je parle, je t'écoute, etc. Et ça, parfois, parents, on prend le dessus et on devient trop autoritaire. Et ça fait fuir.
Ouais, puis des fois, on veut faire des copies-collées, on veut reproduire ce que nous, tu sais, on veut les écouter, mais avec notre échelle de valeur ou une chose simple, l'habillement, tu vois. Moi, quelqu'un qui était cool habillé, il y avait un polo avec, tu sais, un petit... Mais quand il était jeune, mes cadeaux, un polo! Moi, c'est que t'es chic quand tu te mets comme ça, tu vois. Mais lui, c'était un truc de t-shirt que je connais même pas la marque, tu vois. Et là, c'est là de dire, faut que j'ouvre un peu mon esprit. Ouais. Ça peut pas être copié-collé comme moi quand j'étais adolescente. Donc, je fais une illustration bien simple sur l'habillement, mais ça peut être dans leur façon de penser, les choses qu'ils écoutent, tu sais, les émissions qu'ils aiment. Je me dis, qui passe une heure à écouter un truc comme... Mais pour lui, c'est important. Des fois, on va les juger selon notre échelle de valeur. Ou ce qu'on a... Là, je ne parle pas des valeurs bibliques, bien sûr, mais je te parle de leur style, leur personnalité.
Non, ouais, c'est ça. Et de réaliser qu'au final, en tant que parents, on est des intermédiaires, je pense, entre nos enfants et le monde, entre nos enfants et Dieu. En fait, nous, on va les aider finalement à grandir, et ça dès leur plus jeune âge, quoi. Mais ça, c'est dur à réaliser parce que, justement, comme tu l'as dit, le verset « Élève la voix selon l'enfant, enseigne selon la voie qu'il doit suivre », et de se dire qu'à un moment donné, on ne peut pas vivre leur vie à leur place non plus et prendre leurs décisions. Il va falloir lâcher prise. Et ça, c'est super dur pour un parent parce que tu l'as enseigné, tu l'as éduqué, tu lui as donné les valeurs, tu l'as appris à être responsable, à être autonome, tu donnes plein de choses, mais à un moment donné, c'est comme, il veut s'affirmer, il veut prendre ses propres décisions. Et toi, parce que tu as ta façon de voir les choses, donc tu penses que c'est la meilleure.
C'est plus toujours
selon la voix du Seigneur, c'est selon la voix de la maman. On veut les protéger aussi des fois, on veut pas qu'ils se plantent là où on s'est planté, on veut tout faire en fait pour que, en disant ça va être le meilleur ce qu'on va leur apporter. Mais le problème là-dedans, c'est que on les empêche de vraiment bien s'émanciper, de vivre la vie.
Et des fois, on a l'échec.
On a peur, mais il faut faire confiance à Dieu. En fait, il faut lâcher prise et dire, moi, j'ai fait l'intermédiaire, mais Seigneur, c'est ton enfant, c'est toi qui dois prendre le relais, en fait, dans cette relation-là.
Et c'est toute cette difficulté, justement. Et une belle illustration de ce que tu es en train de dire là, c'est le fils prodigue. Tu vois, il y avait deux enfants et il y en a un... qui dit non, moi je veux ma part de l'héritage et je vais partir. Et c'est vrai que je me dis que ce père, parfois quand je regarde un peu, je me dis mais il aurait pu dire non, tu pars pas, tu bouges pas. Ouais. Et lui il dit non, le laisse aller en fait. Ouais. Mais tu vois, un bout d'un moment, cet enfant, il a ce que tu disais, il a fait confiance. Le papa il faisait certainement confiance à ses bases et puis il a dû continuer à prier, etc. Et l'enfant est revenu à lui, donc enseigne l'enfant sur la voie qu'il doit suivre et quand il sera vu, il ne s'en détournera pas. Ouais. C'est-à-dire que c'est cette phase-là, en fait. Il y a un moment donné où il pourra se détourner, mais en même temps, c'est en se trompant qu'on apprend.
C'est ça.
En étant confronté à certaines choses qu'on apprend. Et qu'après, on forge ce caractère et cette force.
Et nous, on est là pour accompagner après. Ouais. On est là aussi pour prier avec l'enfant.
C'est ça.
Mais de laisser l'enfant, enfin l'ado, vivre aussi sa relation avec le Seigneur pour que ça soit... En fait, que ça vienne de Dieu, mais que ça ne vienne pas de nous, quoi.
Ce qui est difficile, c'est quand ils sont avec les cochons, toi.
C'est ça.
Non, tu comprends. Quand ils sont avec les cochons, comme le fils prodigue, je ne sais pas sur l'échelle du temps, combien de temps, mais c'est là qu'il... C'est parce qu'il a été dans cet endroit difficile-là que... Il a changé, il est revenu au Père.
Oui.
Et ce qui est difficile, comme parents, c'est qu'on ne veut pas qu'ils échouent, on ne veut pas qu'ils soient dans des situations, où c'était avec les cochons. Et c'est des fois, c'est ce qu'on veut faire, on veut faire à leur place. Et ce qui est plus difficile, moi, si c'était à refaire, des fois, il faut les laisser échouer. C'est dans ce sens que moi, parce que des petits échecs à leur hauteur, comprenez-moi bien, c'est parce que quand tu échoues, c'est là que tu apprends à te relever. Toi, et des fois, dans la vie, quand on les protège beaucoup et on ne leur fait pas confiance, quand ils échouent pour un gros échec, là, ils sont loin. Ils n'ont pas eu les muscles émotionnels, spirituels pour se relever. Et ça, c'est l'équilibre. Des fois, je ne vais pas faire à ta place. Je vais te laisser pour que tu développes cette résilience-là. Mais c'est pas facile. Et encore plus, je suis sûre que le papa, quand il voyait son fils qui était éloigné, il devait prier de dire, je prie que ce qu'on a enseigné. Mais parce qu'il a souffert, le fils, il est revenu le cœur différent. Et c'est pas facile.
Et à contrario, celui qui est resté, on pourrait se dire qu'il était resté pour les bonnes heures.
Non, mais tu vois.
Finalement, lui aussi, c'était pas forcément. Forcément, parce que la première réaction qu'il a eue quand l'autre est venu, c'était la jalousie, etc. Donc, il y avait des choses. Parfois, on a des. Ça demande aussi beaucoup d'attention de notre part. Parce que c'est pas parce que l'enfant est à côté de nous et qu'en apparence, tout est bien, qu'il n'est pas en train de passer par des moments difficiles. D'où l'importance de se laisser conduire par le Saint-Esprit et de prier pour nos jeunes et de prier pour nos ados parce qu'ils passent par beaucoup de choses.
Ouais.
Il y a beaucoup de voix intérieures qui veulent leur parler pour les détourner de la voie qu'ils doivent suivre. Et c'est vraiment important. Je pense que c'est vraiment un melting pot de prière, de sagesse et de conduite de l'esprit pour pouvoir bâtir sa maison.
Et moi, je suis tellement d'accord avec toi, la conduite de l'esprit. Des fois, j'aime le dire parce que des fois, on pense que tu sais, les paroles prophétiques, c'est avec un micro sur un stage et ainsi par l'Éternel. Mais combien, en tout cas, quelques reprises, je n'irai pas dans le détail, ou dans des moments difficiles où le Seigneur m'a donné une parole spécifique et il n'y avait pas de micro, il n'y avait personne, où tu vas dans sa chambre et tu as une parole au bon moment qui change quelque chose. Là, et ça, comme parent, mère ou père, il faut demander l'aide du Saint-Esprit en toute chose. Des paroles de sagesse, de discernement pour pouvoir avoir cette communication avec eux puis saisir. Parce que des fois, c'est des jardins très secrets.
Hein. Oui.
Donc, il faut que Dieu il nous aide à nous donner une petite clé pour dire « j'ouvre la porte, Seigneur, donne-moi une clé pour ouvrir la porte du cœur qui est fermée. »
Et ce qui va aider aussi, c'est de commencer le plus tôt possible. Parce que c'est vrai qu'on parle de l'adolescence, mais il faut commencer quelque part. Si tu arrives quand ils ont 15 ans, puis tu veux essayer de commencer une communication, une discussion et tout ça, c'est sûr que c'est super. Pourquoi tu me parles aujourd'hui? Et donc, dès le début, c'est ça, leur donner de l'attention, comme tu le disais tout à l'heure, prendre le temps de les écouter, prendre le temps d'écouter leurs sentiments aussi. Parce que des fois, même un enfant, il va le ressentir, mais on peut un peu négliger peut-être les sentiments d'un enfant, ou on prend pas le temps. Et ça fait que, en grandissant, peut-être qu'on se retrouve face à des enfants, des ados qui ne se sentent pas compris. Et ça, il n'y a rien de pire pour un enfant ou un ado qui ne se sent pas compris. Ça peut déranger à la relation et faire en sorte que si je ne me sens pas compris par un parent, je n'irai pas forcément me confier, en fait. Je n'irai pas forcément vers eux et je vais aller ailleurs. Donc voilà, ne pas prendre à la légère en fait, leurs sentiments, même si nous, on a grandi, même si nous, on a fait du chemin, ce qu'ils ressentent au moment présent, le prendre en considération et se dire, je t'écoute, je prends en considération ce que tu me dis. Tu vois. Et en fait, c'est tout un cheminement depuis leur enfance.
Et une chose peut-être qu'on oublie avec les ados, c'est qu'ils aiment, ils recherchent la vérité.
Oui.
Même si c'est à travers le conflit, parce que quelquefois, il va pousser parce qu'il a soif de cette vérité. Et quelquefois, en tant que parent, on veut éviter le conflit, on veut éviter certaines situations. Donc en fait, c'est comme... pour eux, c'est comme si on esquivait la vérité. Et c'est pour ça qu'ils vont pousser. Et je crois que quelquefois, on veut éviter cette vérité pour les préserver. Mais en fait, ils ont besoin. C'est ça qu'ils cherchent, la vérité. Et ils sont capables de l'entendre. Après, à nous aussi, en tant que parents, de bien la formuler, de bien l'amener, et puis peut-être de la doser. Mais ils ont soif. Les adolescents ont soif et recherchent la vérité. Et quelquefois, c'est nous qui ne sommes pas assez courageux pour avoir certaines discussions, pour avoir certaines confrontations, et puis parce que la forme nous déplaît, et du coup on va rejeter ce moment-là, et surtout si on n'aime pas le conflit. Puis il y a beaucoup de jeunes, ils vont dire non, t'es chez nous, on parle pas des vraies choses, parce que t'es mes parents, non, ils veulent pas, dès que ça part tout de suite ils disent non, c'est bon. Et puis par rapport aussi au regard des autres qui sont même pas de la famille, t'es extérieur, et du coup de vouloir donner cette image de belle famille qui va bien, et en fait les jeunes, ils n'en ont rien à faire. Autant leur apparence, leur image vis-à-vis de leur père est importante, mais vis-à-vis en général de la société, ils ont un besoin aussi de vérité et d'authenticité. Et ils ne sont pas dans ce jeu où je veux préserver l'image de ma famille. Si t'as échoué en tant que mère, le monde doit le savoir. Si t'as pris une mauvaise décision, le monde doit le savoir. Et nous, en tant que parents, quelquefois, faut aussi être honnête. On a un désir de préserver notre image de père, de mère et aussi de notre enfant, parce que on se dit bon, il a échoué, c'est une chose, mais maintenant est-ce que j'ai envie que le voisin, la voisine, les grands-parents le sachent? Et en fait, l'enfant n'a pas envie d'être exposé, c'est sûr, et d'être humilié, mais ça lui fait plus de mal quand il voit que le parent essaye de cacher, même si c'est avec des bonnes intentions, mais parce qu'il va se dire c'est parce que... Est-ce qu'il y a de la honte? Est-ce que c'est parce que je suis une forme de disgrâce dans la famille? Et souvent, vraiment, c'est pas parce que les parents sont mal attentionnés. C'est souvent, ça part d'une bonne intention. Je veux préserver mon enfant. Et puis, en étant un peu honnête, c'est aussi parce que je veux me préserver. Et à ce moment de transition pour notre adolescent, bah, c'est aussi un moment de transition pour nous où on doit apprendre à marcher dans une nouvelle dimension de vérité, de lâcher prise, tant pour lui que pour nous aussi à ce moment-là. Donc, c'est doublement douloureux. Et c'est pour ça que tu disais, Laure, quelquefois, c'est nous, en tant que parents, qui sommes pas prêts. Mais vraiment, je crois que quelquefois, c'est nous qui sommes pas prêts parce que on fait quelquefois un contre-travail parce que soit on veut se préserver, tout ça, on a un peu peur de la vérité, mais aussi quelquefois parce que on est dans un mauvais combat, on veut garder notre enfant. Donc en fait, tu le gardes dans l'enfance, tu te dis tant que je le garde, c'est comme c'est mon petit bébé, c'est ma petite fille, c'est mon petit garçon. Et puis bah plus tu le gardes, et plus il va se débattre en fait. Et puis s'il se débat pas, ça va devenir peut-être des années plus tard, tu vas le regretter. Tu vas dire là, il faudrait partir.
Attends, Guy, la raison.
Mais t'as dit quelque chose de tellement important, Annabelle. On n'aime pas le conflit. Et souvent, plus ils avancent en âge, le conflit peut devenir un petit peu plus costaud. Mais une grande révélation, un problème non résolu demeure un problème non résolu. Donc, si on évite le conflit parce qu'on est fatigué, parce que pour toutes les grecques raisons, on a tous fait ça, bien, le conflit, il va revenir. Cette situation que t'adresses pas au début, quand ils sont plus jeunes ou à l'adolescence, bien, ça peut se retrouver aux jeunes adultes et adultes. Et c'est pour ça que même si on est fatigué, tu sais, j'encourage quelqu'un de dire, laisse pas aller. Tu sais, si c'est justifié de ta position, parce qu'après ça, ça peut dégénérer. Et aussi, l'autre piège, c'est de penser que parce qu'ils sont, tu sais, quand les jeunes, tu les couches, tu as tous les stades des enfants, mais là, quand ils deviennent autonomes, adolescents, ben, ils ont moins besoin de nous. Et des fois, c'est comme à contre-courant. Ils ont moins besoin de nous, donc c'est comme si on s'en occupe moins, mais c'est l'inverse. À l'adolescence, je pense que c'est là qu'ils vont être encore plus présents, plus en relation, parce que c'est une autre forme d'âme. Mais des fois, c'est vrai, là, ils vont faire leur jeu, leur ordinateur, leurs amis, leur ci, leur ça. Puis c'est comme si on laisse... C'est comme une période où on dit, bon, ils sont grands. Mais au contraire, je pense qu'il faut être encore plus
attentif.
Attentif, là, à cette période-là. Puis de ne pas laisser aller les choses, parce que c'est comme une boule de neige. Hein. Je sais qu'en Martinique, tu n'en as pas beaucoup, mais ça part avec une petite boule, tu vois.
Tu vois
l'idée un peu. Et des fois, on est dans une saison où on peut dire, oh, ben, regarde, ça va bien. Et finalement, c'est pas tout.
Non, c'est pas tout. Et non, c'est tout à fait ça. Donc, c'est vraiment important, en fait. Et ce que tu disais, Annabelle, me faisait penser à l'aspect, la pression. La pression, elle est sur aussi les ados, mais aussi sur nous, les adultes, parce qu'on a envie justement de réussir au niveau de la famille. On a envie que notre famille, on a envie de présenter un enfant qui parle bien, qui s'exprime bien, qui a réussi dans les études.
Qui dit bonjour.
qui est souriant, etc. C'est aussi, parce que nos enfants, c'est aussi l'image que renvoie notre éducation. Et donc parfois, c'est ça aussi qu'on a du mal à accepter. C'est que mais j'ai fait tout ça et finalement, je ne vois pas encore les fruits. Mais c'est vrai qu'on peut ne pas voir les fruits aujourd'hui. J'aimerais vraiment encourager un parent. Je ne vois peut-être pas les fruits aujourd'hui, mais quand il sera vieux, je les verrai. Je disais à Annabelle il n'y a pas longtemps que j'avais assisté à l'anniversaire d'une mère spirituelle et elle expliquait un petit peu. Donc, le micro était ouvert et les enfants témoignaient. Et elle expliquait qu'avec sa fille, ça n'a pas toujours été simple avec sa maman, etc. Et c'était tellement beau de voir aujourd'hui, à l'âge adulte, cette jeune fille dire à ses parents que c'était le modèle. Leurs parents étaient le modèle.
Est-ce que tu peux répéter?
Donc, c'était tellement beau de voir ça. Mais j'imagine que durant cette phase-là, quand elle était en train d'essayer de l'écouter, c'était pas évident. Elle n'écoutait pas. Elle faisait des choses qui étaient à l'inverse de ce que la maman disait. Mais à l'âge adulte, cet enfant a pris conscience que ce que ma maman faisait, en fait, ce que mes parents faisaient, ça a toujours été pour mon bien. Et donc, quand tu disais de ne pas lâcher, je pense que c'est ça, en fait. Aujourd'hui, on ne voit peut-être pas les fruits, mais la semence, quand elle est plantée, assurément, elle portera tout le temps du fruit. Et donc, c'est vraiment continuer, persévérer et ne pas se relâcher. Et tu vois, une chose aussi à laquelle je pensais quand je préparais ce moment, c'est ça a l'air d'être comme ça, simple, mais demander, je crois, l'amour dans les moments difficiles, qu'on garde l'amour pour ses enfants. Parce que j'avais rencontré une femme une fois, c'était durant un temps, un atelier, et elle s'était levée, elle avait pris son courage à deux mains en disant « Mais moi, j'aime pas mon enfant. »
Oh non. Vous
voyez ? Et c'est là que je lui ai expliqué ce qu'était le véritable amour. L'amour, c'est pas les sentiments, c'est pas l'enfant fait quelque chose de bien, super, l'enfant a une mauvaise note, l'amour baisse. C'est pas ça. L'amour que le Seigneur nous demande d'avoir pour nos enfants, c'est l'amour de 1 Corinthiens, qui, l'amour qui croit tout, l'amour qui espère, l'amour qui croit, qui espère.
Il pardonne.
Il pardonne, voilà, parce que ben, y a des moments où on se sentira trahi, mais voilà, donc c'est vraiment important de pouvoir manifester ces choses.
Et tu me disais aussi, Sita, que vous, vous avez une, je ne sais pas si on peut dire une tradition, mais en tout cas une façon de faire, parce que les enfants veulent aussi des modèles, cherchent des modèles, et puis cherchent des modèles en nous, et d'où cette, maintenant cette jeune fille qui peut dire, bah, t'es ma mère, c'est mon modèle, mais quelquefois, nous, en tant que modèle, les enfants, les ados, ont comme des commentaires à passer sur les modèles, leurs modèles parentaux. Et vous, vous avez instauré une tradition.
Donc, on fait ça en général une fois par an parce que bon, il faut pouvoir engranger tout ce qui va être dit.
T'en as quatre. Hein, donc,
j'en ai quatre. Donc, chacun son tour. Donc, on a institué ça. Chacun dit un petit peu bah, comment il a vécu cette année et puis les points à améliorer. Alors, on commence d'abord par les points positifs.
Ouais.
Et puis après, les points à améliorer. Et
après, c'est l'heure d'aller se coucher. Donc...
Désolée.
Et donc là, chacun parle et dit voilà, bah, toi. Voilà ce qu'on a apprécié, etc. Et voilà ce qu'on aimerait pour cette année, etc. Donc chacun parle. Et les enfants aussi, bon, nous, on donne notre avis sur les enfants. Mais les enfants également donnent leur avis sur les parents. Et donc là, du coup, ça désinhibe les choses. Ouais. Ils ont confiance et c'est plus simple pour eux de parler et de voir que bon, bah, on est en mesure d'encaisser plus ou moins. Donc au départ, c'était pas évident pour moi. J'ai essayé de répondre et puis mon mari me disait non, chut. Et puis maintenant, bon, on se prête à l'exercice, mais c'est important parce que, je dirais, on ne se voit pas toujours, mais nos enfants, en fait, c'est notre miroir. Mmh. C'est eux qui nous voient quand on est à l'église, quand on est à l'extérieur de l'église, quand on est sur la chaire, quand on est au sol. Donc, c'est eux qui nous voient et donc, du coup, c'est vraiment... voilà, je pense qu'une brebis, ce qu'une brebis n'oserait jamais te dire, ton enfant, il te le dit aisément. Et ça nous aide aussi, bah, justement, à nous réactualiser et puis à revoir les choses. Mmh. C'est vraiment quelque chose qu'on a institué qui est important.
Tu vois, je pense que plusieurs parents ont peur de le faire parce qu'ils ont peur de perdre leur autorité. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a eu un modèle qui allait encore une fois à l'extrême où finalement, c'est l'enfant qui reprend l'autorité puis qui dit aux parents « Moi, je veux que tu sois comme ci, comme ci, comme ça. » Bon, là, c'est sûr qu'on est totalement en train de casser l'ordre divin et c'est du désordre. Mais ça ne veut pas dire que parce que l'enfant est sous l'autorité du parent qu'il n'a rien d'intelligent à dire, en fait. Et parce que lui, en tant qu'enfant, bah, on est les seuls parents de nos enfants. Donc, en fait, tout le monde peut nous faire des retours sur notre parentalité, mais qui de mieux placé que notre enfant? C'est comme dans une entreprise, bah, les employés, c'est bien qu'ils aient l'occasion de pouvoir faire des feedbacks à leur hiérarchie, à leurs responsables, parce que sinon, comment les responsables vont savoir? Si c'est les employés de l'entreprise à côté qui leur font des retours, bah, je veux dire, ça va être édulcoré, ça va être vu de loin. Et nos enfants ont des feedbacks à nous faire qui sont intéressants. Maintenant, bah, c'est bien d'avoir un cadre pour le faire et que ce soit pas non plus ni un motif ni un instrument de chantage, parce que quelquefois les enfants peuvent l'utiliser de cette façon-là ou pour blesser, tu vois. Ouais, c'est ça, ou pour blesser, parce que tu vois, il y a des enfants, ils comprennent que tu vois, c'est une corde sensible et du coup bah ils savent qu'en appuyant sur ça, bah ça fait tout le temps là le bas blesse, là maman dit oui, papa dit oui, ils craquent parce que leur cœur peuvent pas le supporter. Donc c'est important de le reconnaître quand même, mais de laisser cet espace de parole à l'enfant, pas où il va seulement avoir dire lui c'est des filles, etc., mais dire bah tiens, en fait, quand je te parle, j'ai l'impression que tu m'écoutes pas. Bon, c'est juste que quelquefois ils y mettent pas trop de forme, donc c'est quand tu m'écoutes jamais. T'as envie là, c'est pas vrai.
Cadre, parce que tu vois, quand on le dit sous le coup des émotions, ça vient pas forcément avec l'emballage qu'il faut. Mais quand on le dit dans un cadre où on est posé, alors c'est un cadre où on est au restaurant, la dernière fois on était au restaurant, donc tout le monde était content, ils avaient pris leur menu, donc c'est un cadre où forcément...
Et on se tient un peu, quoi. On peut pas crier, papa.
Ouais, c'est ça.
Tu peux pas partir dans ta chambre.
Voilà, donc c'est un cadre qui est assez propice. Et puis après, il y a un cadre aussi. Ils savent qu'il y a une manière de s'exprimer, une manière de le faire, une manière de le dire. Et donc, du coup, ça se passe vraiment relativement.
Est-ce que des fois, vous avez été surpris par ce qui a été dit? Parce que des fois, on se connaît un petit peu, mais des fois, oh, je ne m'attendais pas à ça, tu vois. Est-ce que ça vous arrive?
Alors, parfois, on a été surpris par la pertinence, en fait, de leur retour et comment les choses, en fait, revenaient assez souvent. Donc, bon, là, quand ça arrive assez souvent, c'est sur la base de deux témoins qu'une vérité acquise. mais c'est vrai que plutôt par la pertinence et la sagesse avec lesquelles il disait les choses.
Wow.
Plus ils sont grands, c'est-à-dire, il se dit, bon, cette année, si j'ai envie d'avoir un cadeau à Noël, il vaut mieux que je sois sage. Donc, ils savent. Et puis, comment on commence par les points positifs, c'est toujours bien parce que ça fait du bien à l'âme. Tu vois, d'abord, t'as le point positif et tout ça. Et puis après, pouf, le temps que tu ouvres la bouche pour sourire, tu as le doliprane qui rentre. Donc, c'est vraiment bien fait. Et au contraire, ça consolide plus les liens qu'autre chose. Je trouve que ça consolide beaucoup plus les liens qu'autre chose. Et puis, ça leur apprend, mine de rien, à avoir un regard aussi sur eux-mêmes et puis à avoir un regard sur les autres.
Oui, puis comme je dis, il faut être ouverte à les recevoir aussi.
Oui.
Si on justifie aux trois mots, non, je ne suis pas comme ça, mais bon. Donc, c'est aussi un exercice de parler.
C'est un exercice.
De dire, il faut que je sois prête à accepter ce qu'ils vont me dire.
Et en même temps, dans l'autre sens, tu vois, en tant que parent, quand on voit nos enfants grandir, des fois, il y a des attitudes. Et des fois, tu veux les reprendre. Puis, à un moment donné, si tu travailles un peu l'humilité, tu te dis... Ah, mais c'est peut-être moi, ça, finalement, tu vois. Mais des fois, on ne va pas forcément se remettre en question, mais on va quand même aller pointer, tu vois, l'enfant. Parce que lui, on veut qu'il change. Et je trouve ça intéressant aussi de avoir cette humilité, de se dire, ça vient peut-être de moi, et c'est peut-être moi, finalement, qui ai mal influencé mon enfant. Et pourquoi pas même aller le voir, tu vois, discuter, puis dire, c'est pas une bonne façon d'agir, mais peut-être que je t'ai mal influencé, puis je te demande pardon, tu vois. Être aussi dans le pardon, dans la repentance. Non seulement, tu apprends à ton enfant l'humilité, donc ça, c'est cool de dire, il n'y a rien de mal à se tromper, à avoir mal fait, mais en même temps aussi de reprendre. En même temps, de dire on va s'encourager, d'enseigner en
même temps. Comme dirait Eden, ma fille, on grandit ensemble, maman.
Mais il y a aussi des fois, c'est drôle avec la génétique, parce que comme moi j'ai des adultes, puis des fois je dis rien, mais un de mes garçons me ressemble beaucoup. Et je me dis, oh, c'est génétiquement, c'est pas nécessairement c'est mauvais, mais de la personnalité aussi. Que tu dis. Ah oui,
c'est vraiment fait comme ça.
Voilà.
Et un point, c'est le rôle, là on est entre femmes et entre mamans, mais c'est le rôle du père. Et là, je m'adresse pas dans le cas d'une monoparentalité, où on aimerait, ou d'une absence du père, même s'il est là, mais il n'est pas là. Je ne m'adresse pas dans ce cas de figure-là, où la maman aurait un réel désir qu'il y ait un père qui s'implique. Mais quelquefois, en tant que maman aussi, on ne laisse pas la place au papa de s'impliquer, parce qu'on a l'impression qu'ils ont une façon de faire qui n'est pas la bonne, peut-être... ils manquent de tact, peut-être ils sont trop laxistes, etc., etc. Mais quand on voit, on lit les proverbes, t'as ce modèle de famille où il y a le père et il y a la mère, et il y a le père qui instruit, la mère aussi instruit, conseille, etc. Mais les deux sont là. Et je crois que c'est ce qui amène aussi une complémentarité, il y a un équilibre, particulièrement dans ce moment de l'adolescence, parce qu'il y a une vraie transition et une vraie construction. Et en fait, on a besoin de la maman, mais du papa. Puis on a beaucoup mis l'emphase, souvent on va mettre l'emphase beaucoup sur la maman dans les premières années à cause du côté maternel, c'est la femme qui va allaiter, c'est la femme qui a porté, mais en tant que femme aussi c'est de se dire, quand mon enfant grandit et surtout arrivé à l'adolescence, mais est-ce que j'ai laissé de la place au père dans l'éducation, et même s'il y a des choses qui me dérangent, mais en fait ça va venir me compléter, parce que moi en tant que maman, je suis pas complète dans mon éducation, il y a besoin d'un père et il y a besoin d'une mère. Et on ne va pas mener les mêmes choses. Et pas, je veux dire, il faut se mettre d'accord. Il faut pas être, faut être intelligent. On se met d'accord. Mais il y a des choses qui vont être, surtout dans la forme, dans la façon de l'amener. Et en tant que maman, c'est de savoir prendre aussi un pas de recul. Et puis, surtout quand on a été très présente. Et c'est nous-mêmes, quelquefois, qui empêchons le père de pouvoir prendre pleinement sa place. Mais il a quelque chose d'important à pouvoir apporter dans cette construction et dans cette transition.
Et surtout, si on n'est pas toujours d'accord, de ne pas montrer notre désaccord. Tu dis qu'il faut être en accord, mais ça veut... peu importe l'âge, mais des fois, on peut sans le dire, parce que on est spirituel, on le dit pas, mais on peut montrer que donc ils savent qu'il y a un désaccord. Les enfants, ils
sentent bien ça.
Et ça, là, c'est qu'on parlait, il faut vraiment se prendre sur soi et de dire, regarde, peut-être on se parlera après, mais là, je peux pas montrer. Parce que c'est surtout à l'adolescence, ils ont le nez pour aller trouver la faille, tu vois.
Moi-même, j'ai assez joué de ça, parce que mon papa, il disait oui tout le temps. Donc, ma maman, c'était non. Avant même de réfléchir, il disait déjà non. Donc, qu'on avait trouvé la faille, on savait qu'il fallait d'abord aller voir papa
ouais.
pour qu'il dise d'abord oui. Puis en général, quand il dit oui, bon, bah,
ben là, papa, c'est fait, déjà quoi.
Il a dit oui. Donc c'est vrai que c'est important, je pense. Si le Seigneur a confié la responsabilité des enfants à un papa et une maman, il sait pourquoi il a fait ça. Mm-hmm. C'est que chacun a sa part, chacun a sa partition à jouer dans l'éducation. Le père, c'est vraiment celui qui va, le visionnaire, celui qui va diriger la barque et qui va instruire plus par le modèle, l'exemple. Et c'est souvent la grosse voix dont on a besoin parfois quand on est un peu débordé. Mm-hmm. Quand la grosse voix arrive, tout se met en ordre. Donc c'est vrai que c'est important de pouvoir et de surtout montrer l'accord.
Et quand tu dis, on dit, bon, je ne sais pas l'expression, elle est connue partout, mais bon cop, bad cop. Tu vois, quand moi et mon mari, il y a des saisons où c'est à lui d'être ouais, celui qui va trancher, short. Non. Puis, tu sais, moi, je suis la bonne. Hein, Et il y a d'autres saisons où c'est moi, je veux dire, on se dit, ben, là, Stéphanie, c'est à toi. Pour pas qu'on aille toujours celui,
oui, justement, ce rôle, ouais.
Ça a toujours ouais. le même sillon et ils savent que celui, là, lui, il est gagnant. Puis ah. elle a dit toujours oui. Fait que des fois, on se dit, OK. Je dis, OK, aujourd'hui, c'est moi qui étais le bad cop. c'est pas ma nature, mais il faut que ça se comprenne.
Les coulisses des parents.
C'est pas toujours facile pour le papa d'être toujours la voix, ouais, celui qui. Donc, des fois, il faut se dire, ben, que tu vas prendre un relais.
Pour
vice versa, toi. Tout dépendant de nos personnalités.
Oui. Mm-hmm.
Moi, je suis le maillon faible. Dans le savent. Sens que oui.
Et ils le savent.
Oui, oui.
Merci beaucoup, Sita, pour tous ces merci. Bons conseils. Et on veut vous encourager à ne pas perdre espoir, particulièrement si vous passez par des moments difficiles avec vos enfants. Et on a parlé des adolescents, mais ça peut être aussi les jeunes adultes. Et d'avoir ce sentiment où on perd nos enfants, on peut les perdre pour un temps, de façon peut-être physique. Ils peuvent même au niveau du contact. Mais lorsqu'on les garde dans la prière, ben, on ne les perd jamais vraiment. Et puis Dieu a ses yeux sur eux. Et comme cette histoire du fils prodigue, oui, il était loin et le père n'est pas allé le chercher directement. Mais je crois, oui, comme tu disais, Stéphanie, il a prié et son cœur est encore avec son fils. Et son fils a su retrouver le chemin de la maison. Alors ayez confiance en Dieu, que vos prières ne sont pas vaines, que tout ce que vous avez semé dans la vie de vos enfants, tout l'amour que vous avez manifesté et que vous lui avez communiqué ne sera pas oublié non plus. Et c'est difficile en ce moment parce que vous ne savez peut-être pas où est votre fils, où est votre fille, et vous imaginez le pire, mais vous n'avez pas d'autre choix aujourd'hui que de faire confiance au Seigneur et de continuer de prier pour lui pour qu'il revienne. Et je crois vraiment qu'il reviendra à la maison et que là où vous ne pouvez plus rien faire, eh bien lui, Dieu, est en train de le faire, en train de toucher son cœur. Les filles et les fils reviendront vers leur père, ils reviendront à la maison, ils rentreront à la maison et vous pourrez le célébrer, vous pourrez vous réjouir. Et pour vous qui avez des adolescents, eh bien juste, ne perdez pas patience, ne perdez pas courage, c'est une transition, mais ça peut être aussi une belle transition. Et ces enfants qui sont en train de devenir des adolescents, qui deviendront des adultes, eh bien aussi feront votre joie et puis deviendront des amis par la suite, des gens avec qui vous aurez du plaisir à passer du temps, et eux aussi auront du plaisir à passer du temps. Donc vous vous inquiétez pas, ça va bien aller. Merci Sita, on va se retrouver vendredi, tu seras encore avec nous sur un tout autre sujet. Donc soyez au rendez-vous vendredi, on se dit bye bye.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI. Retrouvez toutes les émissions à table avec Annabelle sur emcitv.com.